I don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的牧民南家
正忙着忙着忙着忙
着忙着忙着忙
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à 11h50. Comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale. Aujourd'hui, évidemment, on va s'intéresser à la Grande-Bretagne et à l'Union européenne. Alors que les Britanniques ont choisi de quitter l'Union européenne, le Brexit, quel impact sur les populismes européens? C'est notre sujet ce matin avec nos partenaires, bien sûr, du Monde. Marc Semo, bonjour.
Bonjour.
Effectivement, après des semaines, des mois d'inquiétude pour les uns, d'espoir pour les autres, le Royaume-Uni a finalement décidé de quitter l'Union européenne. Les Britanniques ont choisi le Brexit par 51,9% des voix. La stupeur est grande, alors même qu'on savait que c'était une issue possible. Longtemps, les deux camps ont été au coude à coude dans cette campagne. On va se demander quel impact ce résultat pourrait avoir sur les populismes européens. Au-delà de ce référendum, et même au-delà du cas britannique, il est indéniable que l'Europe traverse depuis des années maintenant une crise de confiance majeure, les peuples montrant une défiance toujours plus grande à son égard, du nord au sud, d'est en ouest, nationalisme, extrémiste et autres populismes prospèrent. De l'Italie où le mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo est parvenu à s'emparer cette semaine d'importantes villes, dont la capitale romaine, jusqu'à l'Autriche où le parti d'extrême droite FPE a été tout proche, on s'en souvient, il y a quelques semaines, d'emporter l'élection présidentielle, et puis plus à l'est aussi, la Pologne, la République tchèque, la Hongrie. Sans compter aussi les pays de l'Europe du Nord. Là aussi, les populismes de droite progressent, les démocrates de Suède, les vrais Finlandais, sans compter bien sûr les Pays-Bas. Quel sera l'impact de ce séisme sur les formations populistes européennes? Comment l'Europe pourra-t-elle s'en remettre? Pour évoquer ces questions ce matin, deux invités autour de cette table. Jean-Dominique Giuliani, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de la Fondation Robert Schuman. À vos côtés, Yves Bertoncini, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'Institut Jacques Delors. Première réaction, on va, comme chaque jour, comme chaque vendredi, évoquer aussi d'autres choses, et notamment un retour du Karabakh dans un instant. Mais d'abord, je voudrais vous entendre l'un et l'autre sur ce résultat. Qu'est-ce qui domine chez vous, Jean-Dominique Giuliani, Yves Bertoncini? C'est quoi? Stupeur, tristesse?
Non, un peu de gâchis, parce qu'on pensait que le Royaume-Uni serait un peu à l'abri du populisme continental, populisme qu'on retrouve dans toutes les grandes démocraties, n'est-ce pas, aux États-Unis désormais et ailleurs aussi, et donc qui est une véritable interpellation pour la démocratie représentative, et qui, bien sûr, rentre comme dans du beurre dans le projet européen, qui, lui, est encore plus vulnérable. Voilà, donc un sentiment de grand gâchis et de grandes difficultés à venir.
Yves Bertoncini, c'est le gâchis aussi?
C'est d'abord un choix démocratique de la part d'un pays qui avait déjà d'ailleurs voté 2 ans après son entrée pour savoir s'il voulait vraiment rester. Donc un pays qui a toujours eu un malaise dans sa relation avec l'Union européenne, un pied dedans, un pied dehors, dans un contexte difficile, au-delà de l'Europe, parce qu'il y a eu une crise économique et financière très très dure depuis une dizaine d'années, que la City de Londres n'y est pas pour rien d'ailleurs, et que dans ce pays en particulier, il y avait un rejet des élites politiques, économiques et financières. Et puis par-dessus, évidemment, l'Union européenne qui a donné un spectacle de division pendant ces dernières années, qui a dû affronter des crises en ordre dispersé, qui est un peu l'incarnation aussi du système des élites, et donc qui paye aussi la note.
Mais votre sentiment, quand vous êtes levé ce matin, vous avez appris que le Brexit l'emportait?
Mon sentiment premier, c'est que je me suis dit que c'était vraiment dommageable, d'abord pour le Royaume-Uni, pour l'Union européenne, qu'on avait consacré à nouveau beaucoup de temps de cerveau disponible au Royaume-Uni et à la façon dont on va transformer ce mariage d'intérêts en Pax, que ça allait nous prendre beaucoup de temps, alors qu'il y a des défis beaucoup plus graves à affronter tout autour de nous, et que face à cela, Cameron, ça sera son héritage, avait un peu raison de dire que l'union fait la force.
Un sentiment de gâchis aussi.
Absolument.
Marc Semo, je veux aussi vous entendre.
Oui,
votre sentiment.
La même chose, ça fait partie des grandes occasions perdues de l'Europe. Et je pense que le choc, alors c'est vrai que chaque crise peut être aussi l'occasion d'une renaissance vers autre chose, mais je pense que c'est peut-être une des plus graves, puisque pour la première fois, cette Europe qui n'arrêtait pas, malgré tous ses problèmes, etc., de s'élargir et de grandir, pour la première fois, on est parti dans un mouvement inverse, avec un risque de détricotage qui est réel, avec des anneaux faibles qui peuvent être sur ses périphéries, mais y compris même en son cœur, parce que tout le monde pense notamment aux Pays-Bas.
Oui. On en reparlera évidemment, on va essayer d'analyser tout ça sereinement, on va essayer en tout cas de voir aussi les conséquences de tout ça, mais pendant ce temps, le monde continue à tourner, il continue à se passer des choses à l'extérieur de l'Europe, et notamment du Haut-Karabakh, et c'est justement la région de laquelle revient notre invité de ce retour d'eux, comme chaque vendredi, en partenariat avec l'Association des Prix Albert Londres.
Il y a 22 ans, quand tu m'avais filmé,
Je t'avais déclaré que nous nous battions pour nos enfants. Et maintenant, après 22 ans, ça recommence. Et nous nous sommes encore battus pour que les Azéris ne rentrent pas dans nos maisons. Là, tu me vois avec ma famille, mes enfants et mes petits-enfants. Et c'est pour eux que l'on se bat encore, pour qu'ils ne vivent plus jamais la guerre. C'est notre devoir, le sens de notre lutte.
Bonjour Frédéric Tonnelly.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste, réalisateur, prix Albert Londres 96. Et on vous reçoit aujourd'hui pour ce documentaire dont on vient d'entendre un extrait, Retour au Karabakh, qui sera diffusé demain sur Arte. C'est une région montagneuse dans laquelle vous êtes rendu régulièrement ces dernières années, je crois la première fois il y a plus de 25 ans. Il faut dire que vous avez un attachement particulier, disons-le, puisque vous êtes d'un père italien et d'une mère arménienne.
C'est vrai.
Alors peut-être quelques mots pour les auditeurs, pour replacer un petit peu tout ça. Le Haut-Karabakh, c'est cette petite région coincée entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui a déclaré son indépendance en septembre 91, mais qui est toujours pas reconnue par la communauté internationale. C'est un territoire qui est revendiqué par l'Azerbaïdjan, mais qui est sous contrôle des Arméniens. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les populations sont peuplées exclusivement d'Arméniens depuis le départ de la minorité azérie. Dès le début des années 90, les hostilités entre les Arméniens et l'armée azerbaïdjanaise ont éclaté, avant de cesser en 94, après une guerre qui a fait plus de 30 000 morts, des centaines de milliers de réfugiés. Et puis, finalement, il y a quelques mois, en avril dernier, ça a repris de façon très violente. Pourquoi les combats ont-ils repris alors que le conflit était de fait gelé depuis plus de 20 ans ?
Alors c'est une surprise et ce n'est pas une surprise. La guerre ne s'est jamais arrêtée entre le Haut-Karabakh et l'Azerbaïdjan. Le Haut-Karabakh est un pays, mais un pays qui n'existe pas puisqu'il est reconnu par personne. Et pourtant il existe, il a un président, une assemblée, des frontières, autoproclamées, mais il existe. Pourquoi c'est une surprise ? Parce qu'on n'attendait pas une guerre de cette intensité et à ce moment précis. Pourquoi ce n'est pas une surprise ? Parce qu'il n'y a jamais eu de traité de paix de signé. Il y a eu un cessez-le-feu signé à Moscou en 1994. Et je dis signé à Moscou parce que là, après les dernières batailles, ça a encore été signé à Moscou. Mmh. Donc Moscou est le gendarme de la région, c'est une évidence. Mais depuis 1994... on se tire toujours dessus à la frontière.
On reviendra évidemment sur le rôle de Moscou qui est absolument essentiel, mais il y a peut-être une chose qu'on peut ajouter, c'est que vous dites que c'est une surprise, mais c'est aussi pas tellement une surprise. C'est-à-dire que ça fait des années que l'Azerbaïdjan se prépare, qu'elle modernise son armée, et notamment avec l'argent du pétrole. Donc d'une certaine manière, elle avait préparé, elle savait qu'à un moment, elle allait déclencher cette offensive.
En 94, l'Azerbaïdjan a demandé le cessez-le-feu, a demandé une armistice, parce qu'elle prenait... une rouste, c'était une défaite terrible, une défaite inattendue. Et depuis 1994, l'Azerbaïdjan se réarme. Le budget militaire de l'Azerbaïdjan aujourd'hui est le total du budget de l'Arménie et du Karabakh, le budget de fonctionnement des deux pays. L'Azerbaïdjan achète à peu près pour 3 milliards d'armes chaque année, essentiellement à la Russie, qui vend d'ailleurs aussi des armes à l'Arménie. L'Azerbaïdjan devait faire cette guerre, parce que l'Azerbaïdjan a toujours dit qu'elle reconquérirait le Haut-Karabakh. L'Azerbaïdjan est un allié stratégique de la Turquie. Et en ce moment, Erdogan et Poutine sont très fâchés depuis la Syrie. Donc, peut-être, le redépart, l'allumage de cette nouvelle guerre est une des conséquences de la relation entre la Turquie et Moscou.
On va y revenir, mais malgré cette asymétrie, en réalité, l'armée azerbaïdjanaise pensait reprendre le contrôle des territoires qu'elle visait assez facilement, et en réalité, en quelques jours, elle a été stoppée par les combattants locaux.
C'est une guerre éclair, qui était inattendue par son intensité. Les Azéris ont mis leurs meilleures troupes, ont attaqué. Bon, d'un autre côté, ils ont attaqué de bas en haut. Le Karabakh est une citadelle assiégée, et les Arméniens étaient prêts, ont été surpris, mais étaient prêts. Après le premier choc, après la première journée où ils ont reculé, ils ont tout repris en deux jours. Et l'Azerbaïdjan a demandé un cessez-le-feu, encore une fois, à Moscou. Parce qu'ils pensaient reconquérir le Karabakh en 4-5 jours.
Mmh, mmh. En réalité, ils étaient prêts parce qu'ils sont prêts depuis très longtemps. Il y a 25 ans, lors de votre premier voyage, vous aviez eu l'occasion de rencontrer notamment trois hommes qu'on rencontre dans votre documentaire, Pavel, Michael et Yura, qui étaient bergers, paysans, menuisiers. À l'époque, déjà, ils se battaient pour leur terre. Vous aviez même, je crois, déjeuné avec la famille de l'un d'eux, fêté l'anniversaire du petit de l'époque, qui devait avoir 7 ou 8 ans, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, si Pavel, lui, n'est plus sur le front, en revanche, son fils, lui, a pris le relais. Donc, en réalité, de père en fils, on continue finalement
c'est
à se
triste,
projeter dans ce
C'est cas. La triste réalité. Il n'y avait pas d'armée au Karabakh, c'est des bergers. C'est l'habitant du Karabakh qui s'est inventé soldat pour défendre sa terre. Aujourd'hui, il y a une véritable armée constituée. Et c'est les fils de ces bergers qui sont devenus soldats. Et ce qui est terrible, c'est que les parents disaient se battre pour que leur fils n'ait pas à se battre.
Donc, sauf qu'aujourd'hui,
ils se battent encore.
Stepanakert,
la capitale.
La capitale, la plus grande ville de cette république du Haut-Karabakh. C'est une ville qui, dès le début de la guerre en 1991, avait été le théâtre d'une campagne de bombardement de l'artillerie azerbaïdjanaise. Les gens avaient résisté, s'étaient terrés dans les caves, refusant de plier sous le poids des bombes. Qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui, cette ville? Est-ce qu'elle est en paix?
C'est
vraiment au cœur, hein. C'est bon, géographiquement au cœur du Haut-Karabakh.
Le Karabakh, moi je compare ça un peu à Sparte, c'est une citadelle assiégée. Donc on sent la présence de la guerre. L'arme arménienne est une arme très poétique, très, très ouverte à l'étranger. On accueille, mais en même temps c'est une âme dure, on est attaché par les pieds à sa terre. Et ça on le ressent très fort à Stepanakert. On croise la gaieté et on croise les soldats, mais ça fait partie du quotidien. Sinon, Stepanakert ressemble à une belle petite ville de province dans les montagnes. Il y a 50 000 habitants, il y a un parlement, il y a la présidence. C'est propre, tout va bien à Stepanakert, s'il n'y avait la guerre.
Pour comprendre un petit peu tout ça, Frédéric Tonnelly, il faut peut-être préciser aussi que il s'agit en fait d'un territoire qui est historiquement arménien, je le disais, essentiellement habité par des Arméniens aujourd'hui, mais qui avait été intégré à la République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan dans les années 1920. Il y a une question qu'on peut se poser, Frédéric Tonnelly, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ce Haut-Karabakh, il veut l'indépendance et il ne demande pas, j'allais dire plus simplement, un rattachement à l'Arménie?
Alors, Staline divisait pour régner. Le Haut-Karabakh est arménien, c'est près de l'Arménie. Naturellement, quand la République d'Arménie se crée, l'Union soviétique se crée avec toutes ses républiques, la République d'Arménie se crée, Staline dit « cette région, je la donne à l'Azerbaïdjan ». Elle restera autonome arménienne, mais sous contrôle de Bakou. En 89, les Arméniens du Haut-Karabakh demandent leur indépendance et le rattachement à l'Arménie. Réaction azerbaïdjanaise, les pogroms de Bakou, Sumgayit, la guerre commence. Ça arrête en 94. En 91, le Karabakh vote son indépendance. Pourquoi le Karabakh n'est pas rattaché à l'Arménie? Parce que le Karabakh, officiellement, porte seul le poids de la guerre. Si le Karabakh, aujourd'hui, était rattaché à l'Arménie, l'Arménie serait hors la loi, puisque personne ne reconnaît l'indépendance du Karabakh.
Vous l'avez dit, il y a deux acteurs majeurs dans ce conflit, la Russie et la Turquie. Essayons de comprendre peut-être le jeu d'alliance qui se passe justement, ce jeu à quatre. Vous avez dit que la Russie, effectivement, avait vendu des armes à l'Azerbaïdjan. Mais en réalité, elle en a aussi vendu à l'Arménie. Alors comment comprendre finalement que la Russie soutienne aussi Erevan?
Et l'Arménie ayant peu d'argent, la Russie prête de l'argent aux Arméniens pour qu'ils achètent des armes. Bon, par contre, les Azéris étant très riches, les payent cash. Pourquoi ce jeu? Il faut revenir...
Russie soutient l'Arménie?
Il y a toujours une odeur de pétrole dans ce monde, ou une odeur de finance. Là, c'est le pétrole. Les Russes soutenaient l'Azerbaïdjan au début du conflit, au début des années 90. Et changent d'attitude, se mettent à soutenir le Karabakh. Au même moment, à Bakou, les grandes compagnies internationales du pétrole signent le contrat du siècle. Le pétrole de Bakou va partir vers l'Europe avec les compagnies américaines, britanniques, les sept sœurs.
Via un oléoduc qui contourne l'Arménie.
On construit un oléoduc qui contourne l'Arménie, parce qu'un oléoduc passe chez vous, vous avez droit à des taxes et à de l'argent. Donc c'est le Bakou Tbilissi-Ceyhan, le BTC, qui est inauguré en 2006 et qui est une frontière qui enferme l'Arménie, qui isole l'Arménie, qui vit sous un blocus. L'Arménie n'a qu'une route qui arrive de Géorgie. Alors quand les Géorgiens sont fâchés avec les Russes, ça ne passe plus. Sinon, la deuxième route de vie vient de l'Iran. L'Iran est devenu un allié stratégique des Arméniens aujourd'hui. Donc, les Russes en voudront toujours à Bakou d'avoir vu le pétrole partir. Le pétrole est parti. Les Américains ont essayé de s'installer en Géorgie, suivent le BTC. Les Turcs sont alliés aux Azerbaïdjanais. Donc, Poutine va toujours soutenir les Arméniens, même s'ils jouent un double jeu.
Et quid du jeu de la France ? Parce que dans votre documentaire, on voit notamment deux parlementaires français qui sont membres du cercle Amitié Franc-Karabakh, qui viennent apporter leur soutien au moment de la reprise des hostilités. On voit notamment le député de la Loire, François Roche-Bouane. Cette visite, d'ailleurs, vous le mentionnez dans votre documentaire, lui a valu une assignation au tribunal de Nanterre.
Pas sa visite, il l'avait reçue déjà 15 jours avant.
D'accord, c'est pas sa visite.
Pour les mêmes propos.
Assignation donc au tribunal de Nanterre par Bakou. De façon générale, comment la diplomatie française se positionne dans ce conflit ?
Bah, comme toujours, la France a toujours aimé les Arméniens et l'Arménie. On a à peu près 500 000 ou 600 000 Arméniens en France, ou d'origine arménienne. On regarde l'Arménie de façon sympathique. Il y a ce pays chrétien au milieu d'un monde musulman. Il y a ce pays de grande culture. Il y a ces belles églises. Il y a un très bon rapport. Bon, une fois dit cela, il n'y a rien d'autre. Pourquoi ? Bakou est trop riche. Et on ne prête qu'aux riches.
Bakou achète l'alliance de Paris.
Ou Paris ne veut pas fâcher Bakou.
Qu'est-ce qu'on peut attendre des discussions sur ce conflit-là ? Frédéric Tonnelier, assez rapidement, Vladimir Poutine a annoncé qu'il allait rencontrer les présidents arméniens et azerbaïdjanais.
Il l'a fait lundi dernier.
Il les a d'abord rencontrés séparément, et puis je crois qu'il a essayé d'organiser aussi une rencontre.
Ils se sont vus tous les trois.
Ils se sont vus. Qu'est-ce qu'il en est sorti ? Qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Est-ce que finalement c'est le statu quo qui va sortir de tout ça, ou est-ce qu'on peut espérer un règlement ?
Je pense qu'il n'y a rien à espérer, c'est le statu quo, et encore une fois, Poutine montre que c'est lui qui tient la baraque. Mais ça peut recommencer demain ou après-demain. Et je pense qu'aujourd'hui, moi je reviens du Karabakh, ils attendent le prochain choc.
Merci Frédéric Tolonier.
C'est moi qui vous remercie.
D'être passé dans nos studios, je rappelle votre documentaire, Retour au Karabakh, qui sera diffusé demain sur Arte.
Je vous remercie beaucoup. Karabakh kalıptı bile yadında, şehit mezarı her adımında. Yanan o evler kışkırır sesi, ağlayan anaların nalesi. Şuşada kaldı benim kavluğum, dede baba kebir sandığım. Düşmen Karabağ'ı elimden aldı, getti torpağın deneyin kaldı.
On va tourner cette page, quitter le Haut-Karabakh, revenir doucement du côté de l'Europe alors que les Britanniques ont choisi de quitter cette Union européenne. Le Brexit, quel impact sur les populismes européens ?
France Culture, Culture Monde par Florian Delorme.
Ce matin, donc, l'Europe s'est réveillée avec ce cri du cœur envoyé par les voisins d'outre-Manche. Les Britanniques ont choisi de divorcer de l'Union européenne avec presque 52% des votes, 51,9%. Le référendum avait été décidé, on s'en souvient, par David Cameron, sous la pression des eurosceptiques de son propre camp. Ce matin, bien sûr, il a pris la parole.
Over 33 million people.
Plus de 33 millions de personnes. Scotland, d'Angleterre, d'Écosse, du Pays de Galles et d'Irlande ont parlé.
The British people have voted to leave the European Union.
Les Britanniques ont voté et ont décidé de quitter l'Union européenne. Le résultat ne fait aucun doute. Les Britanniques ont fait un choix. Ce choix doit être respecté. Et je dois aider à faire respecter ce choix. Je ferai tout ce qu'il faut en tant que Premier ministre pour diriger ce bateau pendant les prochaines semaines et prochains mois. Et je crois que c'est dans l'intérêt national d'aller vers un nouveau gouvernement.
Voilà, Cameron qui respecte la décision du peuple britannique, qui en tire toutes les conséquences et qui annonce donc son départ d'ici le 1er octobre. 51,9% des Britanniques ont donc décidé de lâcher leur partenaire européen. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? L'Europe va-t-elle progressivement se déliter sous les coups de boutoir des populismes qui, depuis des années maintenant, progressent sur le terreau du rejet de Bruxelles ? Voilà les questions qu'on va se poser ce matin avec Jean-Dominique Giuliani, Yves Bertoncini et Marc Semo, bien sûr, du Monde. Marc, ce qu'on craignait, mais d'une certaine manière, on voulait pas croire, est finalement arrivé.
et déjà on voit apparaître les conséquences de tout ça dans le reste de l'Europe. On a vu dans les premières minutes du côté des Pays-Bas, Geert Wilders, donc le leader du Parti de la Liberté, prendre la parole et exiger que soit organisé également un référendum dans son pays pour retrouver sa souveraineté, sa monnaie, le contrôle de ses frontières. Le risque évidemment du fameux domino qu'on évoque depuis des semaines, il est déjà là.
Absolument. Le Brexit, de ce point de vue-là, est un symptôme, hein, au-delà des spécificités du cas britannique, qui montre cette montée de l'euroscepticisme dans à peu près tous les pays de l'Union, où les peuples n'ont plus confiance dans l'Europe. Alors, il faut un peu préciser, tous les partis eurosceptiques, hein, l'exemple des Tories est là, ne sont pas nécessairement populistes. Mais tous les populistes du vieux continent usent de l'Europe comme bouc émissaire, qu'ils appellent à quitter l'Europe, qu'ils appellent à quitter l'euro, ou qu'ils brandissent le rêve d'une autre Europe très fumeuse qui revient à rejeter celle qui est. Alors cette galaxie des populistes européens, mais on peut en tracer des grandes lignes. Il y a ceux de l'Est, hein, qui sont très très identitaires. Il y a ceux du Nord, qui sont surtout à la fois identitaires et contre la solidarité. Ceux du Sud, qui sont surtout des populismes de gauche et qui sont anti-austérité. Mais parmi tous ces mouvements, je voudrais juste, avant de finir, parler du mouvement Cinque Stelle, le mouvement 5 étoiles, qui peut-être, qui est en Italie, qui vient de remporter Rome, Turin et d'autres villes, et qui est peut-être le cas le plus intéressant, parce que c'est la synthèse de tous les populismes existants. Hein, son leader, son mentor, Beppe Grillo, est un amuseur, un humoriste, hein, c'est un Coluche qui aurait réussi, et c'est un Coluche qui aurait réussi en faisant à la fois du Marine Le Pen, du Mélenchon et du Parti des Pirates. De Marine Le Pen, il y a le côté anti-immigration, le refus du mariage gay. Du côté de la gauche, il y a la bataille pour un revenu universel, pour l'augmentation aussi d'un salaire minimum, et du Parti des Pirates. Cette idée d'une espèce de transparence absolue par une démocratie informatique. Ce qui n'empêche pas le parti lui-même et ses députés d'être tenus d'une main de fer par le leader. Et même si aujourd'hui son idéologue, John Roberto Casaleggio, qui était un peu le gourou de Beppe Grillo, a disparu. Et donc je pense que c'est un phénomène qui est très intéressant parce que justement il fait cette synthèse de tout. Et de fait, on a vu, juste un point pour finir, au second tour des élections municipales, qu'ont voté pour lui aussi bien des gens de gauche, contre Matteo Renzi, que des gens de droite, que des gens d'extrême droite, et la Ligue du Nord, xénophobe. Donc c'est vraiment une espèce de synthèse de tous les populismes, et il appelle à quitter l'euro, voire l'Europe.
Une synthèse des populismes, ça ne veut pas dire qu'il pourrait y avoir demain la construction d'un front populiste européen, ça reste autre chose, évidemment, mais... Première réaction, Jean-Dominique Giuliani et Yves Bertoncini, sur cette idée de l'effet domino dont on parle depuis longtemps. Vous avez entendu Geert Wilders, on a entendu ici Marine Le Pen exiger aussi l'organisation d'un référendum, un Frexit. L'effet domino, il est à craindre.
Oui, il est à craindre parce que je partage ce que vient de dire Marc Semo. J'ajouterai une chose, le populisme apparaît en Europe avant la crise, 2005-2006. Donc c'est encore plus grave que ce qu'on pense. Et ce n'est pas seulement la crise économique ou la crise migratoire qui sont des accélérateurs évidents, qui sont la cause de cela. C'est donc un problème posé à la démocratie représentative. Et c'est donc un populisme au sens littéral du terme, c'est-à-dire contestation des élites quelles qu'elles soient et des dirigeants quelles qu'elles soient. C'est pour ça qu'on en trouve de gauche, de droite, etc. Et donc la gravité de ce phénomène qui frappe toutes les grandes démocraties du monde... bien sûr, frappe plus fort l'Europe qui est divisée, inachevée, etc. Alors comment réagir face à cela? On ne peut réagir que par la preuve de l'utilité, en apportant des choses concrètes à des citoyens à qui on ne parle plus de l'Europe depuis pratiquement 25 ans, comme si nos dirigeants en étaient indifférents. On le voit spécialement en France, on le voit aussi un peu en Allemagne, et aux Pays-Bas, où finalement on se contente d'une sorte d'idéologie qui n'en est même plus une, de libéralisme commercial, etc. Il n'y a aucun projet de long terme. Au moment où la mondialisation produit tous ses effets, les technologies aussi, et bouleversent tous les rapports de force et tous les repères connus par les opinions. Et donc comme il n'y a pas de discours courageux tenus à ces opinions, elles vont naturellement vers les populistes, surtout que quand ils arrivent aux affaires... Par défaut, la droite et la gauche font la même politique, et que la plupart du temps en Europe, il y a des grandes coalitions.
Mmh. Oui, donc il faudra peut-être aussi s'interroger sur la réaction des partis historiques traditionnels, ce qu'elles devraient avoir, en tout cas comme réaction. Yves Bertoncini, sur cet effet domino, et peut-être aussi sur les conséquences de ce Brexit sur les formations populistes européennes. On a compris que, évidemment, le paysage est très varié. Mais est-ce que vous pensez que, globalement, ces formations vont sortir renforcées par ce Brexit? Ou au contraire, affaiblies? D'une certaine manière, est-ce qu'on va se dire, mais regardez, les Anglais l'ont fait, les Britanniques l'ont fait, faisons-le aussi? Ou est-ce qu'on va se dire, attention, en fait, ça peut arriver, c'est dangereux, il va y avoir des conséquences économiques, sociales, politiques, géopolitiques. Attention, c'est peut-être pas la bonne issue.
Je crois qu'à très court terme, ça va les galvaniser, puisqu'il faut quand même le rappeler, les formations politiques qu'on regroupe, à mon avis, un peu vite sous le vocable populiste, se réclament du peuple, mais gagnent très peu d'élections. En fait, elles sont beaucoup plus dangereuses dans l'influence qu'elles jouent sur les partis mainstream, qui reprennent leurs idées. Mais elles ont beaucoup plus de mal, en réalité, à gagner des élections. Il y a quand même toujours une difficulté pour elles. Alors, quand elles le gagnent, moi, j'appelle à européaniser le débat sans le bruxelliser complètement. Quand elles le gagnent, c'est souvent pour des raisons locales, domestiques. Je suis désolé, si Beppe Grillo a émergé en Italie, je comprends tout à fait pourquoi. C'est d'abord pour des raisons domestiques, italiennes, un vote anti-système. Ce n'est pas à cause de Bruxelles que Mme Raggi a été élue maire de Rome. C'est parce qu'il y a des gros problèmes de corruption et de mauvaise gestion dans cette ville. Idem en Autriche. Le parti autrichien d'extrême droite faisait déjà 27% des voix avec Jörg Haider en 99. Il n'y avait pas de crise des réfugiés. Donc bon, il faut faire attention.
Oui, mais il a fini par s'effondrer.
À cela, oui, parce qu'il est venu au pouvoir, justement. Mmh. Et qu'après avoir été au pouvoir, il s'est banalisé. Comme d'ailleurs le parti des vrais Finlandais est en train de baisser très fortement dans les sondages depuis qu'il accède au pouvoir. Ce sont des partis donc qui ne sont pas au pouvoir, qui ont des difficultés à y accéder et qui prisent le référendum, justement, parce que le référendum, c'est l'appel au peuple et qu'au fond, ça permet de gagner des élections sur la base de coalitions un peu circonstancielles, parce qu'on verra bien que ceux qui ont réussi à obtenir 52% des voix, ils ont clairement gagné hein, au Royaume-Uni. C'est un mélange un peu hétéroclite de gens de gauche, de droite et de nulle part. Bon. Donc, ensuite, sur l'effet domino, je pense qu'il ne faut pas non plus confondre trop hâtivement l'euroscepticisme, ou plus exactement les euroscepticismes, et l'europhobie. Les euroscepticismes, ça a été dit, ils sont divers, les euroscepticismes. Quand on a vu ce qui s'est passé dans le cadre de la crise de la zone euro, pour les Allemands, pour les Slovaques, pour les Finlandais, c'était trop de solidarité. Il fallait aller aider ces Grecs, ces Portugais et ces Irlandais, alors que les règles disaient clairement qu'on ne les aiderait pas. Et naturellement, de l'autre côté, pour les Grecs, les Irlandais, les Portugais, les Chypriotes, c'était trop d'austérité. L'Europe y a perdu sur les deux tableaux. Mais les euroscepticismes sont donc divers, ils sont contradictoires. C'est d'ailleurs bien pour ça qu'il est difficile de gouverner l'Union européenne désormais. Non pas parce qu'elle est contre le peuple, mais parce que les peuples de l'Union européenne sont très divisés les uns contre les autres. Alors à côté de ces euroscepticismes divers, et donc qui ne forment pas une internationale, mais il y a une europhobie. Et là, il faut quand même s'arrêter une seconde seulement avant de parler de l'effet domino sur le cas d'espèce britannique. Les Britanniques étaient mal à l'aise dans la construction européenne depuis le début, quasiment. Depuis le début. Ils ont voté, clairement, c'est pas non plus un raz-de-marée du peuple contre les élites.
Non, mais c'est plus clair que ce à quoi on s'attendait.
Mais c'est très clair, 52-48. Contre l'appartenance, très bien. Bah, d'ailleurs, l'Union européenne n'étant pas une prison des peuples, ils vont pouvoir en sortir. Est-ce qu'on peut retrouver ce type d'évolution ailleurs? Que les forces politiques appellent, et notamment des forces politiques extrêmes, à l'organisation de référendums, bien sûr, et ça va les galvaniser. Deux questions. Vont-elles obtenir ces référendums? C'est possible, par exemple, à court terme au Danemark, parce que le gouvernement danois tient grâce au soutien du Parti du peuple danois. Donc là, il y a une possibilité de passer à l'acte.
Ou d'autres, c'est possible, Pays-Bas.
Comme Cameron l'a fait. Non, aux Pays-Bas, ça serait un enjeu de la prochaine campagne électorale. De la même façon qu'en France, ça va être un enjeu de la prochaine campagne électorale. Donc, il va falloir...
Chez les populistes de l'Est, enfin...
Alors justement, non, mais c'est très intéressant.
De l'Europe.
L'Europe de l'Est, et ça, c'est la deuxième condition. Premièrement, le passage à l'acte. Deuxièmement, le sentiment d'appartenance. Il ne faut pas confondre, encore une fois, la dégradation de la confiance dans l'Union européenne, de l'image de l'Union européenne, qui est très très nette, et c'est donc l'euroscepticisme, et puis l'europhobie, c'est-à-dire le sentiment si fort de dégoût qu'on la quitte. Ce n'est pas tu l'aimes ou tu la quittes. Nous avons fait une étude très récemment, qui a été publiée cette semaine, sur l'évolution des opinions publiques européennes, 2005-2015, donc qui est sur le site de l'Institut de l'Or, qui montre bien cette différence. En réalité, le sentiment d'appartenance, et on l'avait vu d'une certaine manière au moment de la crise grecque, n'a pas si affecté que ça. Si on a demandé aux Grecs, y compris par référendum, vous aimez l'austérité? Certes non. Vous voulez vraiment quitter l'union monétaire ?
La réponse est clairement non.
Non plus. Oui, oui, et donc, attention, parce qu'en Europe centrale, je termine là-dessus, il y a des euroscepticismes. Mais enfin, si on demande aux Polonais s'ils veulent renoncer aux avantages du marché unique européen, du budget européen, de la libre circulation pour se retrouver face à Vladimir Poutine, je ne suis pas certain qu'ils votent pour sortir.
Oui, sauf que les gouvernements, eux, auront peut-être envie d'organiser quand même le référendum. Et on sait le problème toujours du référendum, qui est qu'on ne répondait pas forcément
libre,
toujours
libre
à la question.
Eux, bien sûr, de le faire. Ils ne sont pas interdits. Hein.
Marc Sémo.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas, dans tout ça, même un cas français particulier? Parce que un récent sondage de Bertelsmann montre, par exemple, qu'en France, le sentiment par rapport à l'Europe d'une éventuelle sortie, le pourcentage, est plus important que par rapport à l'euro. C'est-à-dire les Français, à la différence de beaucoup d'autres dans l'Europe, préfèrent l'euro à l'Europe. Ce qui est quand même assez paradoxal.
Oui.
C'est un pays d'épargnants. La France est un pays d'épargnants. Et quand il s'agit de son livret d'épargne, etc., on préfère... l'effet seuil, taille, jouer avec les Allemands, joue à fond. Et sur l'Union européenne, je crois que l'opinion française, elle est réellement... victime de ces dirigeants politiques qui, depuis 20 ans, après l'euro, n'ont absolument rien fait. Il n'y a pas de politique européenne de la France. En ce moment, c'est particulièrement dramatique. Tout le monde le sait. Et c'est même beaucoup plus grave que ça. C'est même pas de l'euroscepticisme ou de l'europhobie. C'est que depuis le référendum de 2005, est acté dans la classe politique qu'il faut surtout pas parler d'Europe parce que ça ne rapporte rien sur le plan électoral. Et comme les élections ont lieu sur le plan national... on n'en parle pas. Donc c'est devenu une indifférence totale. Et donc, à ce moment-là, lorsque les politiques s'en remettent aux techniciens, on voit ressurgir tous les petits côtés de l'Europe, voire ses défauts, les réglementations, les normes, etc. D'autant plus qu'on joue en permanence double jeu, en disant « c'est pas nous, c'est l'Europe », le cas typique de la pêche, de la politique agricole, où on va décider à Bruxelles avec ses collègues, et puis quand on revient à Paris, on dit ben non, on n'y peut rien, on a été contraint. On n'est jamais contraint, et surtout en France, où il y a quand même une tradition diplomatique, une vieille nostalgie de puissance, expliquée par exemple Marcel Gaucher ou d'autres, qui dit qu'on décline, on a le sentiment du déclin depuis Louis XIV. Bon, eh ben ça accentue ce sentiment de déclin, parce que c'est plus nous qui décidons. Il suffirait qu'à chaque Conseil des ministres, le gouvernement dise « nous faisons ça en accord avec nos partenaires, parce qu'on veut sauver les poissons, sinon il n'y en a plus dans la mer, etc. » Si on faisait ça chaque semaine, croyez-moi, les gens n'attendent que ça. Et en réalité, ils ont le sentiment qu'on a complètement... remis les clés du pouvoir à des techniciens lointains qui répondent à personne et qui édictent des normes dont parfois on peut s'abuser du ridicule.
Jean-Dominique Giuliani, au-delà du résultat, il y a aussi une chose sur laquelle il faut s'intéresser, c'est la méthode, le référendum. C'est évidemment l'outil que veulent imposer les populistes. Or, on sait, on le voit là, que ça peut poser problème, notamment, alors évidemment, on est un peu bloqué parce qu'on ne peut pas refuser le choix du peuple, et en même temps, on se rend bien compte que ce n'est pas forcément dans son intérêt. Il faudra voir ce que ça va donner pour voir si, effectivement, c'était dans l'intérêt du peuple britannique ou pas. Comment sortir de cette logique du référendum qui, on le sent bien là, va se reposer de toute façon?
C'est pas pour rien que je vous parlais d'une crise de la démocratie représentative. C'est que, justement, cette revendication du référendum correspond à une évolution des méthodes politiques. On voit qu'aujourd'hui, sur Twitter, un ignorant a le même rang qu'un ministre. Bon. Et donc, c'est la même chose dans la relation avec l'électeur. Et c'est ça qui est très difficile pour la politique traditionnelle. S'agissant des référendums et de cette demande de référendum, Yves Bertoncini a publié une très bonne étude là-dessus, nous aussi. Il y en a eu 58, il y en a eu 17 de négatifs. Mais les 17 négatifs, c'est les plus proches de nous. Donc on voit bien que le recours au peuple est devenu, en quelque sorte, un instrument au service de la contestation de la politique traditionnelle. Et donc, il faut revenir à des choses simples. Si le général de Gaulle avait fait le 18 juin un référendum, vous en connaissez le résultat. Si Robert Schuman et Jean Monnet avaient fait un référendum, il n'y aurait pas eu d'Europe. etc. Toutes les grandes décisions politiques, si Churchill avait fait un référendum en 40 au Royaume-Uni, ils auraient traité avec Hitler, ce qui était la thèse de Chamberlain et du Parti conservateur. Il n'a gagné la majorité que d'une voix. Donc, si vous voulez, voilà, un homme politique, il doit aussi prendre ses responsabilités. Et c'est comme ça que fonctionne la démocratie. Il est sanctionné. Churchill a été renvoyé chez lui. Général de Gaulle aussi. Et pourtant, ils ont laissé un nom dans l'histoire. Aujourd'hui, on cherche un peu des leaders courageux, prêts à exposer leur poitrine, voire perdre le pouvoir, pour faire quelque chose de bien dans l'intérêt général.
On les cherche, on a du mal à les trouver. Yves Berton-Sidi, vous avez publié une tribune chez nos partenaires du Monde, dans laquelle vous expliquez qu'il y avait une légende qui voudrait finalement que Bruxelles soit incapable de tenir compte du verdict des référendums et que ce sera révélateur d'une certaine fracture démocratique, évidemment, dont on parlait entre l'Union européenne et ses peuples. On pense bien sûr, évidemment, nous, ici en France, au référendum de 2005 sur la Constitution européenne. On s'en souvient, ce non remporté à 54% des voix. Les Pays-Bas, on s'en souvient aussi, avaient suivi ce chemin-là. Pourquoi dites-vous qu'il existe une légende sur ce qui apparaît quand même, en tout cas pour certains, comme un déni de démocratie ?
Prenons l'exemple britannique. Les Britanniques veulent sortir, ils vont sortir. Il n'y a pas de déni de démocratie. Prenons l'exemple des Norvégiens. Ils n'ont pas voulu rentrer deux fois, ils ne sont pas rentrés. Prenons l'exemple des Danois. Ils n'ont pas voulu faire partie de l'Union monétaire. Ils ne font pas partie de l'Union monétaire.
Prenons l'exemple des Irlandais qui ont refusé le traité de Lisbonne. Ils sont obligés d'en subir les contraintes, les règles.
Il y a trois catégories de référendum. Le référendum d'appartenance. On rentre ou on sort. Pas de problème, on rentre ou on sort. Mais ça ne concerne qu'un pays. Deuxièmement, les référendums d'approfondissement. Vous voulez aller dans l'euro, vous ne voulez pas y aller ? Pas de problème, ça ne concerne qu'un pays. Troisième catégorie, c'est la plus problématique, les référendums que j'appelle de gouvernance. Exemple, le traité de Lisbonne ou en France, le traité constitutionnel européen. C'est les règlements de copropriété. Je pourrais même prendre l'exemple plus récent de l'accord d'association UE-Ukraine qu'ont rejeté les Néerlandais. Ça concerne les 28. C'est un enjeu indivisible, cela. Il faut construire un compromis à 28. Les Français, c'est une plaie béante, je le sais bien, en 2005 ont rejeté le traité constitutionnel européen, les Néerlandais aussi. Dans le même temps, les Luxembourgeois et les Espagnols l'avaient ratifié par référendum. Ça fait 2-2, si je puis dire. Et puis il y avait déjà une dizaine de parlements qui l'avaient aussi ratifié. Le déni de démocratie, c'est de vouloir construire l'Europe dans un seul pays. Je sais bien que c'est frustrant quant au vote non à un référendum de voir qu'un traité qui d'ailleurs n'est pas identique, le traité de Lisbonne, n'est pas le traité constitutionnel européen. Il faut en finir aussi avec cette légende.
C'est ce que vous dites dans la tribune.
Simplement, on ne peut pas construire l'Europe dans un seul pays et tout seul. On peut sortir de l'Europe, oui bien sûr, mais si on veut adopter des règlements de copropriété du type traité constitutionnel européen, le déni de démocratie avec un S, c'est de ne pas prendre en compte les 27 autres peuples.
Marc Zemmour.
Tout ça est vrai. Mais en même temps, c'est quand même le terreau à chaque fois pour les mouvements populistes.
Y compris sur des raisons domestiques. Je vais un peu plus loin que ce que vous dites sur les mouvements populistes, parce que honnêtement, ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, comme d'ailleurs ce qui s'était passé en France en 2005, traduit aussi des motivations totalement domestiques, totalement politiciennes. Il y a des gens qui ont voté pour virer Cameron de Downing Street et qui viennent d'y arriver. Je pense que l'Europe n'était qu'un prétexte là-dedans. Quand on regarde en 2005, il y a eu plein d'enquêtes, elles sont accessibles. Pourquoi avez-vous voté non au traité constitutionnel européen ? Première raison, Jacques Chirac. Deuxième raison, on ne veut pas de l'adhésion de la Turquie. Ben, très bien, d'ailleurs, il n'y a pas eu d'adhésion de la Turquie. Et donc, le référendum, c'est un instrument où on pose une question simple, mais simplement les réponses qui sont données sont multiples, polymorphes. Et effectivement, et je le souligne, ça ne fait jamais plaisir aux gens, notamment de la gauche radicale, qu'on le rappelle, sans l'extrême droite, ils n'auraient jamais gagné le référendum sur la Constitution européenne. Et donc c'est une agglutination de partis qui ne sauraient pas gouverner ensemble, ce n'est pas une majorité alternative, mais dans le cadre des référendums, ça peut dépasser les 50%, sachant qu'il y avait en plus à l'époque eu la défection de Laurent Fabius qui avait été décisive pour faire gagner le non.
Marc Zemmour, les principes.
Mais est-ce qu'on peut imaginer que ces partis, finalement, alors effectivement plus par leur influence, puisqu'effectivement ils ne sont pas majoritaires, puissent arriver à se fédérer pour bloquer ce processus aujourd'hui d'aller en avant dans l'Europe et des nécessaires initiatives de relance.
Je fais tourner la parole. Jean-Denis Giuliani.
C'est là où, si vous voulez, on se retourne vers les chefs d'État et de gouvernement. Quand l'Europe doit avancer, doit faire quelque chose de nouveau, ça passe par les capitales. Ça passe pas par Bruxelles. C'est là qu'on doit trouver une volonté politique. Et personnellement, je pense que remettre en route un petit moteur d'intégration intelligente qui parle aux gens et qui doit concerner, à mon avis, à la fois l'économie et le social, serait une bonne méthode pour montrer l'exemple à deux, trois...
Moi, je ne comprends pas ce que ça veut dire.
Eh bien, voilà, je vais vous expliquer. Par Merci. Exemple, en matière économique, pour conforter l'euro, il faut faire une union fiscale. Mmh. Et donc, on passe un accord avec les Allemands, gravé dans le marbre, et on dit, dans 10 ans, on aura le même taux d'impôt sur les sociétés.
OK, et on demande au peuple de se positionner.
Non, pas du tout, ça relève du Parlement, la politique fiscale. Mmh. Et puis, là, vous allez voir les investisseurs du monde entier qui vont dire, tiens, enfin, ils ont compris. Parce que ce qui me choque le plus dans le résultat de ce matin, c'est que pensent aujourd'hui les Chinois, les Japonais ou les Américains. Ils doivent nous dire, décidément, ces Européens sont incorrigibles. Parce que pour eux, la différence entre un Allemand et un Français, elle n'est pas très forte. Et lorsque vous agissez en Chine, on vous le dit comme ça. Alors je continue. Une idée sociale qui intéresse les gens. Aujourd'hui, si vous voulez travailler à la fois, si vous voulez travailler une partie de votre carrière en France, puis après en Allemagne, prendre votre retraite en Espagne, c'est un cauchemar bureaucratique. Donc, ça pose la question de la fiscalité parasociale, ça pose la question des indemnités chômage qu'on doit pouvoir toucher partout en Europe, ça pose la question des retraites, de la santé, de l'accès à la santé, des choses qui parlent aux gens. C'est pas compliqué à faire, il suffit de montrer l'exemple à deux au sein de l'Union européenne. Et c'est comme ça qu'on a créé la libre circulation à cinq. Aujourd'hui, il y a 22 pays qui ont adhéré, qui ne sont même pas dans l'Union européenne. Alors, on a d'autres problèmes, parce qu'on n'a pas achevé. N'empêche que c'était un acquis, et ça reste un acquis. Et donc, si vous voulez, il faut des choses très concrètes.
Vous croyez que l'harmonisation des régimes fiscaux au cœur de l'Union européenne serait de nature à redynamiser le projet européen ?
Sur le plan économique, oui. Et je pense que sur le plan...
Vous êtes bien optimiste.
Hein. Non, je pense que la fiscalité parasociale et tout ce qui concerne... mais attendez, c'est le problème des travailleurs détachés, c'est ça que ça concerne, n'est-ce pas ? Il suffit de se mettre d'accord à deux et pour dire, voilà, on va régler ce problème, on se donne 15 ans, 20 ans s'il faut, si c'est long, mais c'est écrit et gravé dans le marbre et les alternances n'y peuvent rien.
Yves Bertoncini.
Je crois qu'il faut avant tout inscrire des actes dans une vision globale. Pourquoi sommes-nous unis ? Dans la diversité, certes, pourquoi sommes-nous unis ? 7% de la population mondiale, bah plus que 6, hein, puisque les Britanniques vont nous quitter, dans le monde actuel et à venir, qui sera de moins en moins eurocentrique. Ce qui angoisse les opinions publiques. Le monde a été européen pendant 5 siècles, après la découverte de l'Amérique. Il ne l'est plus tout à fait depuis la Deuxième Guerre mondiale. À force de nous entretuer, nous nous sommes affaiblis. Mais il ne l'est plus du tout désormais. Donc, à quoi sert cette union ? Regardons le monde d'abord. Plutôt que de regarder le fait que la Commission peut éventuellement réglementer la courbure des bananes, simplement d'ailleurs pour leur permettre de circuler librement au sein du marché unique. On pourrait s'en passer, certes, mais enfin, regardons le monde, soyons un peu à la hauteur de ce qui nous arrive, si je puis dire. L'agressivité russe, le terrorisme islamiste, le chaos en Libye, en Syrie, le changement climatique, la finance folle, la dépendance énergétique. Est-ce que ces défis-là, on peut les relever seuls, ou est-ce qu'il ne vaut pas mieux essayer de s'unir, parce que l'union fait la force. Il y a des choses qui sont faites.
Donc vous êtes exactement dans la droite ligne de ce qu'on évoquait la semaine dernière avec cette idée d'un référendum sur le pacte européen proposé notamment par Cohn-Bendit et dans leur livre et Guy Verhofstadt, merci Marc Sémo.
Un référendum ou pas, mais en tout cas une vision vis-à-vis de laquelle les Européens puissent se positionner, et pourquoi pas par référendum, même si je faut observer que dans certains pays comme l'Allemagne, il n'y en a pas. Hein, on ne peut pas faire de référendum, ni en Belgique d'ailleurs non plus. Mais au moins une vision. La fin de l'Europe des pompiers et l'Europe des architectes à la place, comme le dit Jacques Delors, qui construisent la maison commune et qui expliquent pourquoi nous sommes ensemble dans cette maison commune dans le monde. Et il y a des choses qui sont faites. Je ne dirais pas tout à fait que rien n'est fait, mais elles ne sont pas inscrites dans cette vision globale. Je vous prendrai seulement deux exemples. La crise économique et financière qui nous a mis dans une situation très très difficile, très très difficile, a suscité une colère énorme partout en Europe et aussi d'ailleurs au-delà de l'Europe. L'Europe a réagi en aidant des pays en difficulté, mais en faisant aussi ce qu'on appelle l'union bancaire. Alors l'union bancaire, on a l'impression que c'est l'union des banquiers. Non, l'union bancaire, c'est pour contrôler beaucoup plus efficacement les banques, depuis la Banque Centrale Européenne, et pour mettre en commun un fonds que les banques abondent pour qu'elles puissent payer pour leur propre turpitude si jamais elles venaient à nouveau à dérailler. L'union bancaire, c'est une réponse à la finance folle parce que l'union fait la force face à la finance folle. L'union monétaire, c'était déjà pareil. Pourquoi les Grecs sont restés dans l'union monétaire et pourquoi les Français veulent-ils y rester? Parce que le retour à la drachme et au franc, c'est le retour de la spéculation financière mondiale et des dévaluations compétitives. Si on n'explique pas, si on n'inscrit pas ces petits actes qui sont parfois des sauts fédéraux, mais sans discours intégrateur, visionnaire, ça donne l'impression d'une Europe qui va cas à cas.
Mais alors, actuellement, la réponse que se prépare à donner notamment Paris et Berlin, c'est surtout celle sur l'Europe de la sécurité. C'est-à-dire disent, les populations ressentent européennes un énorme besoin de protection et ça va être le contrôle des frontières, à la fois pour faire face à la crise migratoire, problème très allemand, aux questions de sécurité et de terrorisme, problème très français. Ça vous semble une bonne idée ou c'est finalement relativement à minima et que c'est un substitut parce qu'on ne sait pas trop quoi faire d'autre?
C'est une bonne idée, ça ne peut pas être la seule, mais ça permet de renouer avec le fil de la construction européenne. Nous avons lancé la construction européenne parce que nous avions peur, je le dis. Nous avions peur de nous entretuer encore et nous avions peur de Joseph Staline. Il faut aussi promouvoir l'Union européenne sur l'ère de l'hymne à la peur. Les opinions publiques ont peur. Et effectivement, pour faire face notamment au terrorisme islamiste, à l'agressivité russe, à l'afflux migratoire quand il est totalement anarchique, eh bien, il faut une union plus forte. Le corps européen de garde-frontières, exemple, il va être créé dès cet été. C'est une avancée fédérale. Simplement, il faut l'inscrire dans une vision collective qui soit visible et accessible au plus grand nombre.
Vous venez à l'instant, Yves Bertoncini, de parler de la crise migratoire. Parce qu'effectivement, il faut quand même venir à ce qui est le cœur, quand même, le moteur de la montée des populismes en Europe. C'est la question de l'immigration. La crise migratoire, ces derniers mois, évidemment, elle a considérablement renforcé ces populismes, Jean-Dominique Giuliani. Comment est-ce qu'on peut faire, comment l'Europe va pouvoir faire pour faire face à ce problème de l'immigration qui renforce, on le voit, ces populismes?
Comment il ne faut pas dire l'Europe, n'est-ce pas? Il faut dire les Européens. Comment Paris et Berlin, ou Paris et Rome, peuvent décider, par exemple, en commun, de réagir à la situation en Méditerranée? Vous comprenez? Moi, j'entends des ministres, le Premier ministre, Emmanuel Macron, avec lequel je suis plutôt d'accord sur les orientations, dire l'Europe doit faire ci, l'Europe doit faire ça. Ils sont aux affaires. Il faut le proposer. Et une politique migratoire, elle ne peut vraisemblablement se faire que par l'exemple de quelques-uns qui prennent le taureau par les cornes et qui demandent aux autres de venir les rejoindre en disant « Regardez, on a réussi à sécuriser la frontière tout en accueillant les demandeurs d'asile et à maîtriser l'immigration. »
Mais on n'y arrive pas. Vous avez vu l'accord de septembre dernier.
C'est un accord.
160, on s'est mis d'accord sur 160 000 relocalisations. On n'arrive à même pas 1000 au bout de 3 mois.
En France?
Non, en totalité.
On est à 3 000, c'est pas mieux.
J'ai dit au mois de décembre, trois mois plus tard, on était à 1 000. On s'était engagé sur 160 000.
La France, on a combien là-dessus sur les 3 000?
Vous vous rendez bien compte qu'on 500. Est quand même très très loin du compte.
500, d'accord. Donc voilà, il faut, typiquement, vous avez raison. Donc c'est un défaut de gouvernance de nos États et pas de la Commission européenne qui est allée extrêmement loin avec beaucoup de courage et qui en a pris plein la figure parce que nos États n'ont pas voulu le faire.
D'accord.
Voilà, donc on n'a qu'à aller, le président de la République va à Rome et il dit on se met d'accord pour contrôler nos frontières maritimes. Et puis au passage, on va aller aider les Grecs, puisque j'entends partout dans Paris qu'on a sauvé les Grecs, etc. Donc on n'a qu'à envoyer 2000 de nos policiers ils savent faire pour essayer d'aider à enregistrer, accueillir les... Alors, je crois que ça commence à être fait, etc. Mais on a tellement tardé, si vous voulez. Donc, il faut qu'on passe dans la classe politique du temps des commentateurs au temps des acteurs. Et c'est ça qu'attendent les gens. Ils veulent des résultats, même s'ils sont modestes. Ils s'inscrivent dans une vision, ils doivent s'inscrire dans une vision. Parce que la crainte, c'est la crainte du déclassement et du déclin. Et en plus, la crise migratoire accroît ce sentiment.
Yves Bertoncini, vous vouliez ajouter quelque chose?
Non, mais je crois qu'au lieu des enjeux opérationnels, il y a maintenant un corps européen de garde-frontières qui va être mis en place. Non, ça renvoie à une crise identitaire. Je crois que la crise migratoire dit cela. Les Européens voient bien qu'ils vont peser de moins en moins, qu'ils auraient certainement d'ailleurs sur le principe besoin d'un davantage d'immigration.
Tout
mais
en restant la première économie du monde. Restant la première économie du monde, à 28, la première puissance commerciale. Donc c'est ça qui est le gâchis, c'est pour ça que je parle de gâchis. Après la crise, nous sommes toujours le premier PIB du monde, 14 000 milliards de dollars, 18% du PIB du monde devant les États-Unis, devant la Chine.
Mais je suis d'accord, et en même temps, au-delà de ces enjeux matériels, Il y a des enjeux identitaires et d'ailleurs on voit bien des réactions négatives, y compris dans des pays qui vont très bien, qui sont riches, la Norvège, l'Autriche. Et donc il va falloir aussi répondre sur le registre identitaire. C'est quoi être européen, uni dans la diversité, dans la mondialisation ?
Ce matin, on est tous un petit peu abasourdis par ce résultat. On l'imaginait pas vraiment. Hier encore, on pensait que finalement le Remain allait l'emporter. C'était pas nécessaire de lire finalement les enquêtes, les sondages, etc. C'était plus intéressant d'aller du côté des archives, parce qu'on aurait trouvé ça.
À quoi pourrait aboutir ce qu'on appelle l'entrée de l'Angleterre dans le marché commun ? Et si on voulait malgré tout l'imposer, ce serait évidemment l'éclatement d'une communauté qui a été bâtie et qui fonctionne suivant des règles qui ne supportent pas une aussi monumentale exception.
Voilà, il l'avait dit.
Oui, c'était en 63, ça, ou en 67 ? 63, ouais, général de Gaulle. C'était son autre appel de Londres, je dirais. Bon, il avait en grande partie raison, effectivement. La greffe, on pourrait le dire, n'a pas prise. Living my own life. Got you out of my life. Been wasting too much time. Gonna leave you far behind.
Goodbye, voilà, c'est un peu le dernier message que finalement les Anglais nous envoient et qu'on pourrait leur envoyer en retour. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous ce matin. Marc Semo, bien sûr, notre partenaire du Monde comme chaque vendredi. Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman, ainsi que Yves Bertoncini, le directeur de l'Institut Jacques Delors. Merci infiniment, messieurs. Je remercie également Frédéric Tonnelly qui est resté avec nous, je rappelle, pour son documentaire Retour au Karabakh, qui sera diffusé demain sur Arte.